France Inter, le 18-20.
Consonne, voyelle, ES, S, L, c'est fini. Le bac général n'aura plus de lettres. Il peut aussi avoir moins de chiffres puisque les mathématiques deviennent une option. On va sans doute y venir assez vite. Mais donc la réforme des lycées qui nous emmène jusqu'au nouveau bac en 2021 est en cours. Les élèves de seconde sont en train de choisir leur spécialité, même s'il reste encore du temps. Mais on s'inquiète parfois et on s'interroge. Quels choix seront valorisés? Est-ce que ces spécialités permettront une meilleure orientation en études supérieures? Est-ce qu'elles enferment au contraire? Qu'est-ce que je fais si je me trompe? Comment on revient en arrière? Comment peut se passer un changement de lycée si je choisis des options qui ne sont pas proposées dans mon établissement? Est-ce qu'il y a un risque au fond de reconstituer les filières ES, S et L avec des options et des spécialités? Qu'est-ce qui empêchera une filière supérieure aujourd'hui qui dit « je ne prends que des bacs S » de dire « je prends que les options maths et sciences physiques ». Il y a donc des inquiétudes, ça veut dire qu'il y a aussi des questions, on va tâcher d'y répondre. Vous êtes donc au bon endroit.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Et la première, c'est vous Hélène, bonsoir, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Hélène, allez-y.
Alors moi, je me pose la question de l'accès aux études supérieures, parce que je suis allée voir le site de l'ONICEP dédié au choix des spécialités, je suis allée voir Parcoursup, et je me dis, ma fille qui est en seconde, elle a un projet professionnel assez précis, qu'elle devrait pouvoir atteindre parce qu'elle a un niveau scolaire vraiment très correct. Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle choisisse? Et nulle part, je n'ai trouvé d'informations, en l'occurrence, sur quels seront les attendus pour rentrer en prépa littéraire. Est-ce qu'il faut faire... Bon, lettres philo, ça paraît évident, mais est-ce qu'il faut mieux faire langue? Est-ce qu'il faut mieux faire histoire géo? Est-ce qu'il faut mieux faire langue et culture de l'Antiquité? Est-ce que faire de l'art, c'est bien? Et est-ce que dans 2 ans, quand elle sera en terminale et qu'elle fera ses dossiers, on lui dira pas « Ah ben non, mademoiselle, vous avez pas fait histoire géo, qui n'est pas proposé dans son lycée, un lycée rural où donc c'est 40 km pour le trouver dans un autre lycée. Et ça, je n'ai trouvé aucun. Enfin, nulle part les réponses. Et Hélène... Je suis parent délégué et je m'intéresse et je fais des recherches et je suis moi-même enseignante. Et
alors justement, vous êtes cerné, on a bien compris. Est-ce que quand vous posez la question autour de vous, qu'est-ce qu'on vous répond en fait? Est-ce qu'au fond tout le monde est démuni de la même manière ou pas?
Ben, je suis un peu une personne référente, donc je suis très embêtée.
Donc c'est à vous qu'on pose la question du coup.
Mes proches qui ont des enfants qui sont en seconde ou même en troisième, en disant dans quel lycée je le fais rentrer pour que après il ait sa spécialité. Spécialités qu'il veut faire dans la mesure où ils savent un peu ce qu'ils veulent faire plus tard, ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde. Et donc, en fait, c'est moi qui me retrouve un peu coincée en tant que parent référent, parent délégué, parce qu'on me dit, alors, comment ça va se passer au lycée voilà. Et pour mes élèves, je suis professeure en collège, la question pour la suite de la troisième se pose pour quelques-uns qui ont un projet professionnel qui demande des études supérieures avancées ou au moins enfin minimales. Je suis en train de me poser la question vers quel lycée on les oriente en seconde, parce qu'il faut qu'ils aient décidé de faire plus tard pour ne pas se retrouver coincés dans un lycée où il y a que des lettres ou que des sciences.
On a bien compris. Merci beaucoup, Hélène, parce que vous avez bien serré le problème et il y a beaucoup de choses dans votre question. On va tâcher d'y répondre si on peut pour entamer cette discussion et rester ensemble jusqu'à 20h. Rodrigo Arenas est là. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Bonsoir. Philippe Vincent. Vous êtes en duplex des bureaux de Radio France à Marseille. On remercie Olivier Martoc qui vous a ouvert la porte et qui vous laissera ressortir tout à l'heure. Vous êtes proviseur du lycée Jean Perrin à Marseille, président aussi du syndicat des chefs d'établissement. Et puis Sonia Princey est là aussi. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Spécialiste éducation à France Inter. Je vais commencer avec vous, Rodrigo Arenas. Mais c'est intéressant ce que dit Hélène parce que c'est un peu la problématique qu'on essayait de mettre en place en lancement. Au fond, quand on ne sait pas comment on fait, est-ce qu'on risque pas de recréer effectivement une bonne vieille filière? Et effectivement, est-ce qu'on risque pas d'entendre, dans le doute, fais des maths, comme ça, les meilleurs scientifiques étant littéraires et inversement, les meilleurs, pardon, littéraires étant scientifiques, comme ça, tu t'en sortiras mieux. Qu'est-ce qu'on répond à Hélène, au fond, quand on ne sait pas, quand on est perdu?
Disons que nous, en tant que fédération, déjà, on a des grandes inquiétudes par rapport à la mise en œuvre de cette réforme. Pour être schématique, on propose, en dehors du tronc commun, des spécialités aux élèves, un peu comme si vous alliez au restaurant. En fait, on vous donne un menu qui est plutôt alléchant, mais au fur et à mesure que vous demandez les plats, en fait, on vous explique qu'ils sont pas en cuisine. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, puisqu'on se rend compte que ce non-respect, quelque part, du choix des élèves de pouvoir choisir parmi les 12 spécialités, en fait, structure aussi les inégalités au niveau du territoire, parce qu'il y a un manque de ressources humaines sur le terrain. C'est-à-dire, le manque de ressources humaines, c'est les enseignants pour disposer penser les choses. Donc, nous, on est fédération d'utilité publique. Moi, j'invite votre auditrice, mais tous les parents, d'une certaine façon, mais aussi les enseignants, puisque des fois, c'est eux-mêmes ont du mal à comprendre. Je sais qu'au niveau de la FCP, on a mis quand même un peu de temps avant de comprendre comment la mécanique qui se mettait en place, surtout sur des générations d'élèves qui tous ne sont pas concernés finalement par la même scolarité au lycée en fur et à mesure que les ressources se mettent en place. Mais je l'invite vraiment à aller sur le site du ministère qui s'appelle horizon21.fr, puisque elle pourra mettre en gros ce que veut sa fille ou ses proches comme finalité, et ensuite elle pourra avoir les spécialités qui iront avec.
J'ai peur qu'elle l'ait déjà fait en fait, ce genre de démarche telle qu'elle nous décrit son côté référente. Philippe Vincent, j'imagine que dans les lycées on commence doucement, on commence pas doucement d'ailleurs, on commence vraiment à expliquer les options et le reste, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un comme Hélène? Ma fille sait ce qu'elle veut faire, mais qu'est-ce qu'on sait de ce que l'enseignement supérieur derrière demandera et dira des options qui auront été choisies? La grande inconnue, c'est quand même celle-là aujourd'hui.
Alors, sur le fond, je ne suis pas certain que l'enseignement supérieur, de toute façon, va beaucoup changer ses demandes. Donc, on peut imaginer que le contenu des études supérieures ne va pas être transformé par la réforme du lycée, et que se renseigner d'ores et déjà sur le contenu de ces études va guider déjà un peu le choix des enseignements de spécialité. Voilà, j'entendais votre auditrice évoquer une prépa littéraire. Bon, les spécialités qu'elle évoquait seront sans doute celles recherchées par les prépas littéraires. Et d'une manière générale, puisque j'ai l'avantage d'avoir un lycée avec classe préparatoire, c'est plutôt la qualité du dossier que l'on va rechercher plutôt que de savoir si le futur étudiant a fait telle ou telle spécialité ou telle discipline. Donc il faut sans doute un peu modérer les inquiétudes des parents aujourd'hui et ne pas considérer qu'on, parce qu'on sera dans un couloir, on restera dans ce couloir.
Sonia Princey qui voulait intervenir.
Oui, alors effectivement, le ministère a précisé qu'il n'y aurait aucune spécialité qui serait rédhibitoire. Est-ce qu'on peut répondre à Hélène, c'est peut-être d'assurer un petit peu des choix un peu classiques, hein, humanité, littérature et philosophie, et littérature, langue et culture de l'Antiquité. On peut imaginer que pour une classe préparatoire littéraire, c'est quand même ce qui sera demandé. Alors il faut préciser que les élèves vont choisir 3 spécialités pour la classe de première, et ils n'en garderont que 2 en classe de terminale. Donc ça permet quand même d'assurer un choix au moins de 2 spécialités qu'ils vont garder jusqu'en terminale, un peu qui correspond à la filière de leur choix.
D'ailleurs, avant de retourner au standard, tiens, est-ce qu'on peut juste faire le tour, le tronc commun, Sonia, français, histoire géo, deux langues vivantes, sport, enseignement moral et physique, philo, ça c'est pour la terminale, et enseignement scientifique. Et puis après, il y a les options.
Les spécialités,
faut pas appeler ça une option. Mais en même temps, vous voyez, quand la langue fourche, en général, c'est comme ça que ça résonne. Les arts, les maths, sciences de la vie et de la terre, biologie, littérature, langue et culture de l'Antiquité, donc ça veut dire latin grec, hein, j'imagine. Ouais. Numérique et sciences informatiques, humanité, qu'est-ce qui rentre dans les humanités là-dedans?
Humanité, littérature et philosophie. Alors ça, pour l'instant, c'est quand même assez vaste.
Voilà.
Et langue, on n'a pas encore de précision sur
langue
le contenu.
Et histoire géo, parce que du coup, c'est ça ma question, pardon, j'espère que je vous piège pas, Sonia, mais quand on prend une spécialité histoire géo ou langue qui existe déjà dans le tronc commun, est-ce que ça veut dire qu'on se fait une vraie spécialité, qu'on s'ajoute des heures? C'est comme ça que ça fonctionne,
oui, c'est
en
ça.
Fait
c'est D'accord. ça, de toute façon, il y a le tronc commun. C'est-à-dire que, par exemple, pour la spécialité mathématique, il ne faut pas s'inquiéter, sachant qu'il y a quand même enseignement scientifique dans le tronc commun. Donc, ça veut dire que les élèves qui ne choisiront pas la spécialité mathématique ne vont pas, du jour au lendemain, arrêter les mathématiques en première. Ils vont pouvoir continuer à en faire, mais dans le tronc commun, dans la discipline enseignement scientifique.
Marguerite, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y, Marguerite.
Alors moi, je vous pose la question pour mon fils qui rentre en première, qui en l'occurrence, à l'inverse de la personne précédente, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire plus tard. Et donc, il s'interroge sur certaines options et il va poser des questions à ses profs, notamment sur l'option anglais, de prendre cette spécialité en anglais. Et le prof lui répond que ça, c'est une spécialité qui est plutôt dédiée à des élèves qui s'intéressent à la littérature anglaise, qui sont capables de lire un livre en anglais et de s'intéresser à la littérature. Et ensuite, il va voir un autre prof, je crois, prof de physique, pour lui demander en quoi consiste la spécialité. Je crois qu'elle s'appelle digital numérique. Donc j'ai compris, en gros, pour savoir se servir d'Internet.
Numérique et sciences informatiques,
oui. Voilà. Aussi bien gérer les données, par exemple, sur Internet, que de faire de la programmation. Et le prof lui répond, ça, c'est une spécialité qui est plutôt dédiée à des nerds, entre guillemets, avec donc l'aspect hyper spécialiste que peut comporter ce mot, et péjoratif en l'occurrence. Donc lui, il est un peu désespéré parce qu'il a le sentiment qu'en choisissant une option, il doit déjà être bon, voire déjà être expert, et que c'est pas du tout une option de découverte avec les moyens qu'on peut avoir quand on a 16 ans en seconde et que la littérature anglaise, c'est pas forcément une passion déjà, quoi. Il faut l'amener vers ça, il faut pas lui faire peur par rapport aux spécialités qu'il va choisir. Et donc, je voulais savoir comment on fait pour choisir des spécialités quand on n'est pas déjà expert, et ils sont experts en rien, à mon sens.
Merci beaucoup, Marguerite, pour cette question. Philippe Vincent, c'est pour vous cette inquiétude-là de Marguerite, dont le fils est en première. À quoi ça ressemble, la spécialité langue, effectivement, quand on choisit vraiment en spécialité, donc au-delà même du tronc commun?
Oui, alors on est en train de découvrir aujourd'hui le contenu exact de ces enseignements de spécialité, puisque les programmes sont en train de sortir. Et en l'occurrence, alors il faudra aussi croiser les sources d'informations et les multiplier, parce que j'imagine que le collègue qui a répondu à cette maman n'avait pas forcément le détail du contenu de cette spécialité. D'ailleurs, elle s'appelle langue, littérature et cultures étrangères, donc on peut imaginer que le spectre en sera beaucoup plus large et pas seulement lié effectivement à l'aspect littéraire d'une culture ou d'une langue étrangère. Donc ça, c'est la première réponse. Sur le choix des élèves, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi, pour deux éléments, un, n'oublions pas qu'ils seront évalués dans ces spécialités, donc ils ont plutôt, à mon sens, intérêt à choisir des spécialités dans lesquelles ils ont de relativement bonnes performances. Et deuxièmement, il faut aussi que ces spécialités les intéressent, parce que votre consoeur le disait, ça sera 4 heures en première et 6 heures en terminale. 6 heures en terminale, ça commence à être un horaire conséquent. Si l'élève n'est pas intéressé par cette discipline, effectivement, ça risque d'être une spécialité qui puisse lui peser.
Rodrigo Arenas, le fait qu'on ne sache pas effectivement ce qu'il y a, j'allais encore dire option, décidément je trouve ça intéressant que Marguerite ait aussi utilisé le mot option, le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a réellement à l'intérieur, est-ce que c'est sujet de préoccupation pour vous ou pas ?
C'est profondément anxiogène, d'autant plus que la finalité c'est quand même le supérieur, alors que ce soit une filière professionnelle ou une filière générale, quand je vais dire générale, puisqu'on va reprendre le jargon maintenant des lycées, c'est-à-dire l'université, tout simplement. Aujourd'hui, on sent quand même dans notre fédération que cette réforme est faite parce que ça fait des dizaines d'années qu'on n'investit pas suffisamment dans le supérieur et dans la recherche. Ce qui fait qu'en fait, on essaye de réguler à travers des options, que vous appelez en fait des spécialités.
C'est pas moi qui les appelle, ça s'appelle spécialité.
Je sais bien, non, mais je faisais référence à l'hésitation que tout le monde a, parce qu'on réfléchit aussi dans l'ancien monde, tous un peu avec l'école qu'on a connue et qui n'est plus celle qui est aujourd'hui. Et les parents sont perdus, les lycéens aussi, parce que ça change d'année en année. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, on est en train de faire reporter sur le lycée des choix qui avant se faisaient à l'université au fur et à mesure du cursus universitaire. Et on est dans une situation très anxiogène parce qu'on ne sait pas en fait les attendus des universités et la transparence qui est faite sur les algorithmes qui permettent de trier en fait les élèves à Parcoursup soit en amont soit avec les algorithmes locaux qui aujourd'hui ne sont toujours pas disponibles. D'ailleurs Jacques Toubon aujourd'hui défenseur des droits vient de statuer que oui il y a un manque de transparence sur cette question-là. Notre fédération avec d'autres avant saisi le défenseur des droits, il nous a donné des raisons sur ces questions-là. La question c'est pas de regarder en fait de façon curieuse, il s'agit simplement de savoir quelles sont les attendus des universités pour que les familles se préparent avec les élèves à pouvoir avoir ce parcours universitaire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas. Et non seulement c'est pas le cas, mais en plus, c'est une réforme qui est pensée fondamentalement pour les centres hyperurbains et certainement pas au fur et à mesure qu'on s'éloigne des cœurs des métropoles.
Ce que j'entends, c'est qu'on va recréer les filières artificiellement, Sonia Princey.
On risque effectivement de recréer des filières parce que les élèves vont peut-être choisir des matières qui vont plutôt ensemble et qui du coup ressemblent fortement aux filières qui existent déjà. Alors, pour aider peut-être l'auditrice, j'avais une question à Philippe Vincent. Il était question à un moment donné que les élèves puissent avoir accès à des cours là dans les prochains mois pour découvrir un peu le contenu de ces spécialités. Est-ce que ça va pouvoir être effectif dans les établissements, dans les lycées, là, dans les prochains mois, avant qu'ils puissent faire leur choix définitif pour la première ?
À ce stade, on peut dire qu'on n'est pas prêt là-dessus. Maintenant, une fois que les programmes sont sortis, on va devoir s'y intéresser. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de formations qui se mettent en place actuellement dans les académies pour initier les enseignants aux nouveaux contenus disciplinaires, parce que certains, je dirais, sont assez classiques et sont relativement peu transformés, et d'autres sont assez novateurs parce que on crée des disciplines, en tout cas pour certaines spécialités, où on associe des disciplines dans certains groupements de spécialités. spécialité. Voilà, donc il va y avoir sans doute cet effort, et je rebondis sur ce qu'on disait précédemment, c'est vrai qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus aux attendus du supérieur et qu'on cherche à trouver une plus grande cohérence entre l'enseignement au lycée et l'enseignement dans le supérieur. C'est peut-être bien qu'on le découvre maintenant, je ne suis pas certain qu'on se posait beaucoup la question auparavant.
Méline nous a... allez-y, pardon, répondez Rodrigo Arena si vous voulez, on prendra la question de Méline dans un instant.
Non, n'importe quel parent dont l'enfant est scolarisé dans un lycée général a pour perspective pardon, d'aller à l'université, donc que ce soit dans le pro ou dans le général d'ailleurs, donc moi je comprends pas bien tout ça. Ce que je me rends compte surtout, c'est que on fait porter aux enseignants aussi des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Je pense notamment aux conseils qu'ils donnent sur le marché de l'emploi. Par définition, un enseignant est censé être un bon élève, il est censé en tout cas avoir connu comme métier pour la grande majorité, l'école, depuis qu'il est en maternelle jusqu'à ce qu'il devienne enseignant, et il ne connaît pas le marché du travail. Or, on lui demande de se prononcer sur là-dessus. Il y a que orientateur, c'est un métier. Enseignant, c'est un métier. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des confusions de genre, des confusions de métiers qui tend finalement à spécialiser les élèves dans un âge en plus qui est très compliqué à anticiper, parce que par définition, un lycéen, au fur et à mesure qu'il développe son adolescence, va découvrir des nouvelles choses. C'est le rôle du lycée. Et donc, on lui demande dès la seconde de se plonger dans des spécialités avec un univers qu'il ne connaît pas et que justement il va le découvrir au lycée. C'est ce côté qui va enfermer dans les spécialités, d'ailleurs c'est pour ça que ça porte ce nom, qui va spécialiser les élèves certes, mais parce qu'en fait il y a un problème de débouché à la fin. C'est qu'on, comme il n'y a pas suffisamment de place à l'université, là où l'élève choisit d'aller et non pas on lui impose d'aller, finalement c'est ce qu'on disait depuis longtemps, cette orientation subie fait qu'on arrive à ce que dit le proviseur que vous avez à l'antenne, c'est qu'on ne sait plus qui fait quoi, et dans le problème dans tout ça, c'est que les parents sont complètement perdus pour certains. En tout cas, je peux vous dire que notre fédération fait l'outline depuis un moment, parce que ils sont paumés, et les élèves avec, parce qu'on reproduit ce qu'on fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on va reproduire de toute façon le scientifique qui va redevenir en fait le couloir de piscine reine au lycée.
Alors il y a plein de questions sur les maths. Avant qu'on y vienne, j'ai deux questions rapides qui nous viennent sur franceinter.fr. Celle de Méline d'abord, qui dit: je suis en seconde, j'adore l'école et toutes les matières, j'ai 18 de moyenne, mais je ne sais pas quoi faire comme métier, que dois-je choisir comme spécialité pour repousser le moment où je serai obligé de choisir? Philippe Vincent, dans ces cas-là, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire à Méline, t'as qu'à saupoudrer, en fait? Mais saupoudrer, ça la fait pas beaucoup avancer.
Alors, saupoudrer, est-ce qu'en choisissant trois spécialités sur 7, 8, 10, 12, ou 12 au maximum, d'ailleurs, parce que écologie et biologie ne sera sans doute que dans l'enseignement agricole. C'est effectivement déjà faire un certain nombre de choix. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être au regard de ses préférences, de là où elle se sent le plus à l'aise, de ses centres d'intérêt, qu'elle a intérêt à choisir. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une philosophie trop adéquationniste en faisant en sorte d'obliger les élèves, parce que le parcours serait déjà extrêmement balisé et les portes bien marquées, de choisir telle ou telle descente. Voilà, c'est plutôt du slalom géant que du slalom spécial.
Et est-ce qu'on peut, quand on est Méline, est-ce qu'on peut, alors c'est un peu un cas d'école, mais c'est pas grave, allons-y comme ça, Philippe Vincent. Disons qu'elle choisit maths et sciences physiques parce qu'au fond, elle a envie de faire médecine, on va dire, tiens, voilà. Et puis, en classe de terminale, elle découvre la philosophie, elle trouve ça formidable. Et donc, finalement, elle va choisir autre chose. En fait, Méline, elle va choisir une autre voie. Est-ce qu'elle s'est enfermée en choisissant maths et sciences physiques? Est-ce qu'elle s'est fermée, du coup, des portes pour l'enseignement supérieur? Est-ce qu'elle s'est fermée une classe préparatoire parce qu'elle n'a pas choisi une option littérature qui l'aurait peut-être aidée?
Non, je ne pense pas qu'elle se fermera grand-chose. D'une part, dans l'exemple que vous évoquez, mais c'est peut-être le hasard, elle aura conservé la philosophie dans le tronc commun de terminale, donc de toute façon, elle en aura fait. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on recrute, que ce soit dans l'enseignement supérieur, en lycée ou à l'université, on choisit plutôt la qualité des dossiers, l'aptitude des élèves à travailler, leur capacité à se concentrer, à être prégnant dans les disciplines, plus que sur une note à la virgule dans telle ou telle discipline. Donc c'est plutôt les qualités scolaires qu'on va rechercher, et je dirais qu'entre deux dossiers, quelle que soit la spécialité, on irait plutôt chercher, entre guillemets, le bon élève ou l'élève intéressé ou l'élève qui a un engagement personnel fort, plutôt qu'un chiffre après la virgule.
Allez, Patrice, le prof de maths, vous nous attendez depuis longtemps, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour. Vous avez commencé en disant qu'il fallait dédramatiser, et moi je pense qu'il faut dramatiser parce que c'est catastrophique ce qui se prépare. Déjà, on change deux niveaux d'un coup, ça n'a pas été dit, et comment on fait le programme de première quand on n'a pas fait celui de seconde? Il y a des disciplines inventées pour lesquelles il n'y a pas d'enseignants, comme les sciences du numérique informatique. Et puis, en première, le choix pour les mathématiques, c'est soit on en fait, soit on n'en fait pas. Tout ce qui a été dit avant est faux. Il n'y a pas de mathématiques dans l'enseignement scientifique. Et en l'occurrence...
Est-ce qu'on sait ce qu'il y a d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement scientifique? Pardon Patrice, est-ce qu'on le sait ça ou pas?
Il y a essentiellement de la physique et de la SVT. Alors en physique, d'accord, ils sont amenés à faire un calcul de volume, combien il y a de cristaux dans tel volume de machin, mais c'est pas des mathématiques. Hein. Et c'est 2 heures par semaine.
Donc plus de maths, et c'est bien ce qui vous inquiète.
Plus de maths, et alors quand ils ont que 2 choix en fait les élèves. Soit ils font des maths, c'est 4 heures par semaine, et c'est des maths pour scientifiques, alors que 4 heures par semaine c'est pas suffisant, le rapport Villani disait qu'il en fallait 7-8. Et puis je constate qu'il y a beaucoup beaucoup moins de choix qu'avant finalement, puisqu'avant un élève, quand il y avait des... Alors je reviens plusieurs réformes en arrière, quand il y avait A1, A2, A3, BCD, il y avait 5 choix possibles, avec 5 niveaux de maths et 5 horaires de maths différents. Mmh. Et quand on faisait C, on faisait 6 heures de maths par semaine et pas 4.
Mmh. Ouais. Alors moi j'ai fait A1 et c'est vrai qu'on faisait des maths en même temps un peu contraint.
Il y avait 5 heures de maths en A1.
Et croyez-moi, c'était contraint et forcé. Mais enfin bon.
Non, mais
vous en avez fait quand même.
Je dis pas, les maths en plus ont pas forcément une bonne image, mais c'est dommage. Mais c'est dramatique.
Parce que ce que j'entends, ouais, Patrice, moi, dans ce que j'ai lu, c'est, entre autres, il faut essayer de casser la prééminence des maths, en fait. Donc l'idée que...
Je comprends, alors, moi, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on peut pas dire, donc les maths, c'est soit pour les... C'est 4 heures pour les scientifiques et 0 heure pour les autres. Il faut... moi, je pense que j'ai des élèves en seconde qui savent ce que c'est qu'un pourcentage. Ce serait peut-être bien qu'ils apprennent un jour. Et en tout cas, pour les scientifiques, 4 heures, c'est pas suffisant. Mmh.
Merci pour ces remarques de prof de maths, Patrice. Votre réaction, Rodrigo Arenas, là-dessus?
En fait, c'est quand on regarde en fait les spécialités qui sont proposées par les lycées, on voit bien que c'est différent déjà dans le territoire dans lequel on habite. C'est-à-dire que nous, on a recensé sur les sites du rectorat ou là où la FCPE a fait ses propres petits tableaux, parce que c'est notre job de le faire aussi pour que les parents puissent juger, et qu'on se rend compte qu'il y a dans certains établissements, les élèves en fait n'ont pas vraiment le choix. Mmh. Je prends souvent cet exemple qui est en Seine-Saint-Denis, à Drancy, où un établissement propose seulement 3 matières et une spécialité. Donc en fait, la combinaison qui est possible, elle est du chiffre de 1. À côté, vous avez le même lycée à côté qui en propose davantage. Donc c'est-à-dire que selon le lycée que vous allez fréquenter, en fait, vous n'aurez pas vraiment le choix de faire les choses. Donc, c'est ça le problème. Au-delà de ce qu'on peut dire de la philosophie, de la réforme que veut mettre en place le ministère de l'Éducation nationale et qui est suivie ensuite par le ministère de Madame Vidal dans le supérieur, c'est que ça va se planter du fait parce qu'il n'y a pas la capacité de pouvoir choisir parmi toutes les options. Et sans compter que dans les spécialités qui sont un peu innovantes, je pense à sciences de l'ingénieur, écologie, toutes ces matières que aujourd'hui sont centrales pour affronter le monde dans lequel on est pour les enfants, c'est eux qui vont devoir affronter le réchauffement climatique, la robotisation, l'intelligence artificielle, inventer de nouveaux process, etc. En fait, on se rend compte que toutes ces spécialités-là, en fait, sont portion chagrin dans la réforme.
Bah, biologie, écologie, donc, moi j'ai compris que c'était pour les lycées agricoles, en fait.
C'est ça, normalement.
Vous voyez, c'est donc c'est aussi une vision qu'on a des lycées agricoles, c'est-à-dire que c'est considéré en gros que pour les lycées où on va apprendre à être paysan. Bon, moi, tant mieux que c'est des paysans en France. On sait bien que c'est une préoccupation centrale, notamment en termes d'alimentation. D'ailleurs, on produit plus aujourd'hui de l'agriculture comme avant. Ça a changé, mais en tout cas, c'est très restreint et on se rend compte que finalement, si on dit que c'est une réforme du choix, à ce moment-là, il faut laisser le choix. Or, on se rend compte que ce n'est pas la réalité, puisque les élèves ne pourront pas choisir parmi les deux options, ce n'est pas vrai. Et moi, j'invite vraiment les parents à regarder les spécialités qui sont desservies dans leurs établissements et à, quelque part, à s'organiser, alors que ce soit avec la FCPE ou pas, peu importe, c'est pas la question, on bosse pour les enfants, pour que ce choix soit disponible pour tous les parents. Parce que si on ne peut pas choisir à la base, il n'y aura, en fait, on est sur une orientation qui sera subie à la fin, parce que, y compris les attendus des universités, seront basés sur spécialité, les attendus, enfin, des résultats de Parcoursup qu'on commence à voir maintenant aujourd'hui, montre bien qu'il y a un choix d'université sur dossier et que très souvent on fait bénéficier les bacs qui ont eu des mentions, pardon, etc. Et aussi qu'il y a une structuration territoriale en fonction des académies, en fonction des universités.
Philippe Vincent, 2 choses. D'abord, sur la disparition des maths si on ne choisit pas la spécialité maths. Je suis assez curieuse de savoir ce que le proviseur de lycée en pense. Et puis, une question subsidiaire, numérique et sciences informatiques, ça va être dispensé par qui, en fait, la spécialité numérique et sciences informatiques?
Alors, il y a 2 options possibles qui d'ailleurs pourront se conjuguer. On a un certain nombre d'enseignants qui enseignent déjà l'informatique. Par exemple, certains enseignent dans des BTS, sciences du numérique. Donc, on sait qu'ils ont des compétences. Et par ailleurs, un certain nombre d'autres enseignants, quelle que soit leur discipline, d'ailleurs plutôt des scientifiques, ont suivi tout ou partie d'études informatiques et donc ont des compétences. Et ce qui se met en place par ailleurs, c'est un système de formation pour que les collègues qui se déclarent volontaires acquièrent assez rapidement un diplôme universitaire qui validera leur capacité à enseigner cette spécialité.
D'accord. Et alors sur la fin des mathématiques, parce que dans, encore une fois, pas la fin des mathématiques, mais qui deviennent une spécialité à partir de la première ou de la seconde pour ceux qui ne l'auront pas choisi. Qu'est-ce que le proviseur que vous êtes en dit, Philippe Vincent?
Qui fut professeur aussi, d'ailleurs.
Et qui fut professeur, du coup, forcément, comme tous les proviseurs.
Beaucoup d'entre eux, oui, effectivement. Écoutez, le pari qui est fait, c'est que les élèves qui choisiront la spécialité mathématique, alors ils la choisiront pour 4 heures en première, 6 heures en terminale, et s'ils veulent en faire en plus, ils pourront prendre mathématiques expertes en terminale qui rajoutera 2 heures. Donc ils pourront quand même en terminale avoir fait beaucoup de mathématiques puisqu'on aboutira à un horaire hebdomadaire de 8 heures. Et vous le disiez vous-même, vous avez subi les mathématiques forcées et contraintes dans une filière littéraire. Le pari que fait le ministère, c'est que choisiront des mathématiques, des élèves qui ont vraiment envie de faire des mathématiques, qui se destinent donc plutôt à des études scientifiques, et qu'on peut espérer du coup avoir des mathématiciens par choix et pas des mathématiciens par défaut.
Mais alors, en espérant aussi qu'au moment des prérequis, au moment des choix, on ne va pas se retrouver avec des gens qui, exactement comme ils disent, moi je veux que des bacs S, ne diront pas moi je ne veux que des gens qui ont pris l'option mathématique, parce qu'au fond ça veut dire qu'on est dans le même entonnoir.
Oui, effectivement. Alors là, il y a un questionnement. Alors, l'exemple traditionnellement avancé, c'est celui de STAPS, les études d'éducation physique et sportive, pour lesquelles, effectivement, il y avait traditionnellement quand même l'idée qu'il fallait avoir un bac S. On peut imaginer, mais je m'avance peut-être un peu, que les universités en matière de STAPS recruteront de manière beaucoup plus diversifiée que uniquement en allant rechercher des mathématiciens. Quand on voit aujourd'hui sur quoi débouchent les études en éducation physique et sportive, qui d'ailleurs ne débouchent pas que sur le professorat, on imagine que d'autres compétences et d'autres spécialités peuvent être recherchées. C'est vrai qu'on verra ça dans 2 ou 3 ans, au moment où les futurs bacheliers candidateront pour entrer en STAPS.
Sonia Princey, avant qu'on retourne au standard.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, ou c'est peut-être une chance, que beaucoup d'élèves choisissent quand même de suivre l'enseignement mathématique par sécurité pour leur filière plus tard, et que du coup on se retrouve avec un afflux d'élèves pour cette spécialité, avec, on le sait très bien, un déficit de professeurs dans cette discipline?
Philippe Vincent. Bah,
effectivement, c'est un peu l'inquiétude des profs de maths, c'est de se poser la question de savoir si les futurs lycéens spécialistes de mathématiques qu'ils auront en phase 2 auront bien pris mathématiques parce qu'ils ont envie de faire des mathématiques et non pas parce qu'ils imaginent ou imagineraient que les mathématiques puissent leur servir dans un projet d'orientation. Donc là, c'est sans doute un point à éclaircir. Le contenu de l'enseignement de spécialité mathématique qui serait, en fonction des informations qui nous semble assez soutenu, aura peut-être aussi vocation à éclairer des choix.
Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
On vous écoute Hugo, allez-y.
Oui, Hugo Drapier au téléphone, je suis professeur d'histoire-géographie en lycée. Ma question portait sur les nouveaux programmes du lycée. On sait que ces programmes ont une élaboration très compliquée avec la démission de la tête pensante du CSP Michel Dussault, suivie par Marie-Alette Grard, qui est la vice-présidente de la TD Quart-Monde. Ils ont été proposés au CSE, donc le Conseil supérieur de l'enseignement, au mois de décembre, qui réunit des représentants des personnels, des usagers, des partenaires de l'éducation nationale dans les lycées. Ils ont reçu des votes extrêmement négatifs, 41 voix contre en EMC pour 0 pour, une voix pour en histoire géo contre 47 voix contre, en maths 32 voix contre pour 6 voix pour. Ces programmes, ils ont été sortis dans leur version définitive par un syndicat, le syndicat majoritaire chez les enseignants du secondaire, le SMES, hier. Ils ont été peu ou pas changés. Ma question est donc la suivante. Est-ce que le ministère méprise ces instances consultatives?
Merci beaucoup. Hugo, si vous le permettez, puisque vous êtes prof d'histoire géo, moi j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous savez d'ailleurs, en termes de programme, ce que vous mettez, vous, le prof d'histoire géo, lorsque vous êtes choisi en spécialité par rapport à ce que vous faites en trop commun? Vous le savez ça ou pas?
Alors, on a des contenus qui sont sortis, qui sont très axés sur la transmission des connaissances, et donc ce qu'on a, c'est des items de connaissances sur les programmes. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas quelles sont les compétences que je dois mettre en œuvre avec mes élèves de seconde, qui vont, dès le mois de janvier prochain, passer une épreuve du baccalauréat en tronc commun d'histoire-géographie. Donc je les forme à quelque chose flou, inconnu. Je ne sais pas s'ils vont réaliser des croquis, ou enfin je le sais à peu près, mais je ne sais pas sur quelle base. Des analyses de documents, pourquoi et comment, sur quel type de source, des compositions peut-être, mais on ne sait pas.
Merci, merci Hugo pour ces précisions. Philippe Vincent, sur le contenu des programmes et les interrogations qu'on entend de la part d'Hugo.
Alors il y a des interrogations effectivement qui renvoient d'une part quand même au calendrier relativement serré dans lesquels ces programmes ont été élaborés. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la tâche du Conseil supérieur des programmes a été quand même relativement ardue et on peut considérer que sans doute un effort de consultation supérieure aurait peut-être permis des amendements ou en tout cas un plus grand échange pour arriver à un plus grand consensus. Donc ça, c'est, je dirais, un petit regret. Le versant de cette affaire-là, c'est que d'une manière traditionnelle, quand ces projets arrivent devant le Conseil supérieur de l'éducation, on sait bien qu'il y a plutôt des vote entre guillemets politique d'appréciation ou de non-appréciation du projet proposé d'une manière plus globale et que le débat porte assez peu sur le détail du contenu. Voilà, donc on est plutôt dans un positionnement pour ou contre la réforme plutôt que sur un positionnement pour ou contre le programme lui-même. Pour autant, j'imagine qu'il faudra sans doute les regarder d'un peu près, voir s'ils correspondent bien à ce qui est recherché et peut-être amener des évolutions au fil de l'eau.
Rodrigo Arenas, est-ce qu'on est plus sur le contenu à la FCPE, le contenu de ces programmes-là?
Oui, d'ailleurs, ça nous arrive de voter favorablement à des réformes qui sont proposées pour un ministère, donc je comprends pas bien le clivage qui se met en place là, mais je pense que ça fait partie de toute cette musique qui tend à discréditer les corps intermédiaires, mais sauf qu'à force de discréditer, on va se prendre les gens directement en pleine face, donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on présente, mais au-delà de la polémique, il y a des questions qui se posent dans les différentes interventions. D'abord, c'est le fait que les enseignants ont pas l'air tout super au courant des choses, c'est quand même eux qui vont être en prise directe avec les élèves et qui vont les former pour la suite. Deuxièmement, c'est que in fine se pose à sempiternelle la question des absences, puisque quand vous êtes formé, forcément vous n'êtes pas en poste, et qu'on sait dans notre pays que remplacer un enseignant absent, c'est pas ce qu'on sait faire de mieux. Au contraire, on sait bien que la question des absences non remplacées dans le secondaire n'a toujours pas été réglée dans notre pays, mais de façon structurelle, pas juste conjoncturelle. Donc il va y avoir à un moment donné un vrai problème d'adéquation entre la ressource humaine, j'ai envie de dire, et les cours à dispenser. Donc quand on sait pas trop ce qu'on sait faire, comme le dit votre Hugo, l'enseignant d'histoire géo, je sais même plus si on dit histoire géo maintenant, mais parce que je suis un peu vieux maintenant.
On dit toujours histoire géo, je crois.
Voilà, parce que des fois ça va très vite les réformes, donc on est un peu perdu. Mais en tout cas, entre ce qu'il témoigne, qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, le manque de ressources humaines sur le terrain. Et, moi, je pense à un moment donné. Enfin, moi, je suis quelqu'un de normal. Je pense que quand ça va pas marcher et qu'on sait que ça va pas marcher, il faut faire une pause. Et nous, on considère à la FCPE, au-delà des considérations sur le Conseil supérieur de l'éducation, que il est temps de. Alors certains appellent ça un moratoire, peu importe. En tout cas, je pense qu'il faut faire une pause, non pas pour dire que c'est tout pourri, pour que ça marche, il faut que les conditions soient réunies. Or aujourd'hui, tous vos auditeurs, et je vous garantis, vous les avez pas choisis parce qu'on a les mêmes retours sur le terrain, ça montre que ça ne peut pas fonctionner dans les conditions actuelles.
Allez Louise, qui est lycéenne, bonsoir Louise.
Bonsoir.
Et on vous écoute Louise, allez-y.
Donc d'abord, je voudrais vous faire remarquer que vous aviez oublié les spécialités artistiques lorsque vous avez proposé les spécialités, donc par exemple comme le théâtre et les arts plastiques.
Aussi, j'ai dit art, j'ai pas dit art dans les spécialités.
Mais théâtre et art plastique.
D'accord, ok.
Et ensuite, je voulais dire que moi, je suis lycéenne, je suis en première, donc j'évite la réforme de peu. Et très clairement, à cause de la nouvelle réforme, je sais très bien que je n'aurais pas pu choisir les choses que j'ai choisies cette année, parce que la nouvelle réforme, dès la troisième, oblige les élèves à choisir leur spécialité, à choisir leur lycée, à choisir quasiment toute leur vie, en fonction de la fac qu'ils voudront avoir et en fonction des écoles auxquelles ils voudront avoir. Et je trouve ça extrêmement inégalitaire et je pense que beaucoup d'élèves le pensent et beaucoup de personnes le pensent.
Merci pour ce témoignage, Louise. En quoi, Philippe Vincent, en quoi ce serait différent pour quelqu'un comme Louise aujourd'hui avec une spécialité art?
Pour être très honnête, je vois pas très bien en quoi ce serait différent, parce que les spécialités art jusqu'à présent n'étaient pas ouvertes dans tous les lycées, en particulier certaines spécialités de la spécialité art.
Mais ne le sont toujours pas d'ailleurs. Pour le coup, pour cette spécialité, il faudra changer de lycée, non ?
Je dirais sans doute ni plus ni moins. Effectivement, lorsque dans un département on voulait faire la spécialité art du cirque, on savait qu'il y avait un lycée dans le département qui l'offrait et que c'est dans ce lycée qu'il fallait aller. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas le sentiment que la carte sera beaucoup bougée. Encore que les retours que l'on a, et c'est peut-être une inquiétude pour les collègues, c'est qu'on est plutôt dans une proposition relativement ouverte avec plutôt plus de spécialités implantées dans les lycées que plutôt moins. Et c'est d'ailleurs une des interrogations de nos collègues. C'est effectivement, si on offre un très grand choix de spécialités aux élèves, comment au réel, en termes de combinaison et d'emploi du temps, arriverons-nous à compiler et à monter ensemble des choix de spécialités relativement différents entre eux. Donc c'est, je dirais que c'est plutôt le trop-plein qui nous inquiète plutôt que le pas assez.
Il y a Rodrigo Arenas, il y a Delphine de Lyon qui dit la même chose que vous, qui dit pourquoi ne pas décaler son application puisque les choses n'ont pas l'air tout à fait au point pour l'instant. Vous vouliez intervenir?
Oui, c'est moi, je connais bien la Seine-Saint-Denis parce que c'est là-bas que je suis implanté avec mes enfants, comme on dit. Mais par exemple, on parle de l'art, il y a trois établissements qui le proposent. Il y en a un qui est à Saint-Denis, l'autre qui est au Lila, l'autre qui est à Noisy-Grand. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est Cône-Dionysienne. Bon, concrètement, quand vous êtes dans la plupart des communes, vous y alliez pas. Vous y allez pas parce que simplement c'est loin, parce que la question de la mobilité quand on a 15 ans et qui est compliquée dans tous les territoires français. Quand vous êtes dans la ruralité, je pense notamment à tous ces élèves qui doivent choisir entre des lycées qui sont à 40 km d'écart, etc. Bon, concrètement, ça sera pas possible. D'autant plus qu'il y a des recteurs qui disent très clairement aux parents que les élèves ne pourront pas choisir entre deux établissements pour faire les spécialités. Donc clairement, structurellement, ce n'est pas possible de faire ces spécialités. Et in fine, ce qui va se produire, c'est que pour que cette réforme puisse fonctionner, on va dire, à minima, il va falloir en fait que les parents mettent la main au portefeuille. Ça veut dire prendre soit des internats quand il n'y a pas d'aide, soit prendre une carte scolaire pour le transport qui n'est pas remboursé pour tout le monde. Ça veut dire, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, nous, à la FCPE, la privatisation rampante de l'éducation nationale. C'est que quand des réformes sont mises en place et que ça grince, c'est les parents qui mettent la main au portefeuille. Je pense que c'est pas dans l'air du temps en ce moment.
Sonia Princey.
Oui, pour répondre, pourquoi ne pas décaler la réforme et retarder, tout simplement pour des raisons politiques. Le bac auquel aboutira la réforme, c'est le bac 2021. Et il faut que ce soit terminé avant la fin du quinquennat.
Alors justement, je vais prendre la question d'Olivier dans ma voix, parce qu'on n'a pas le temps, pardon Olivier, mais la question est intéressante. Notre fils est en première, il va partir pour une année de césure à l'étranger pour un échange. Quand il reviendra, il va tomber en plein dans la réforme. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même question qui nous vient d'Anne-Claire sur franceinter.fr qui dit « Mon fils est en première et que se passera-t-il s'il rate son bac l'an prochain? Il n'aura pas suivi les enseignements de la nouvelle première, ni même d'ailleurs préparé le fameux grand oral. » Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on le sait, Philippe Vincent?
Non, actuellement, on ne le sait pas. Effectivement, c'est une des questions qui nous est assez régulièrement posée, parce que on sera vraisemblablement au milieu du gué pour un certain nombre d'élèves qui auront fait des études en lycée avec un système et qui, potentiellement, suite à un échec ou un choix de vie différent, reviendront avec un système différent. Là, il y aura sans doute, j'imagine, des capacités d'adaptation à trouver. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Déjà, il y a un malus en ce moment en cas de césure pour Parcoursup. Donc, que ce soit un redoublement ou une césure, concrètement, sur la suite, ça va être compliqué.
Voilà, bah écoutez, ça en fait beaucoup des questions. Il y en aura un autre de Téléphone Sonne sur le sujet. Il y en aura un sur Parcoursup aussi dans peu de temps. Allez, portez-vous bien.